tellement précieux, tellement important. Et donc, en général, c'est pas tellement que la Bible en parle peu, c'est plutôt que les responsables d'église ont peur d'aborder le sujet et donc on l'aborde de temps en temps. Et c'est une faute, c'est une erreur, on ne devrait pas le faire. On devrait pouvoir parler de ça comme de tous les sujets bibliques. Et vous allez voir encore aujourd'hui combien c'est un sujet qui est souvent traité dans la Bible, un sujet dont on parle énormément. Et donc, il n'y a pas de raison que dans l'église, tout à coup, on en parle peu. Alors, je vais donc revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois. On a parlé du fait que dans la Bible, du début à la fin de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui apportent des dons à Dieu, qui apportent des offrandes à Dieu. Et rappelez-vous qu'on a vu que dès les débuts du livre de la Genèse, on voit notamment Caïn et Abel qui s'approchent de Dieu, qui apportent des sacrifices à Dieu. Et donc, c'est quelque part quelque chose de basique dans la relation à Dieu, c'est que l'être humain est appelé à s'approcher devant Dieu en lui offrant des choses. Nous sommes appelés à offrir des choses à Dieu. Et on a vu aussi que c'est vrai du coup dans la Genèse, mais on a aussi vu tous les textes, notamment dans Nombre, dans Lévitique, dans Deutéronome, où on nous parle de comment Dieu donne des ordres à son peuple sur les offrandes qu'il faut faire. Alors rappelez-vous, on a vu les différents types, il y a les offrandes, les sacrifices, on a vu différents types d'offrandes, différents types de sacrifices, mais le but de voir tout ça, on a vu ça en survol, le but c'est simplement de se rendre compte qu'en fait, les sacrifices et les dons, c'est quelque chose de tout à fait présent dans la Bible, c'est extrêmement documenté et que, du coup, ben, ça nous concerne aussi. Nous sommes aussi appelés à nous approcher de Dieu en lui offrant des dons, des sacrifices. Et nous avions terminé par rappeler une vérité centrale du Nouveau Testament et centrale de la vie chrétienne, c'est que nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous sauvés par Dieu pour devenir sacrificateur. Et un sacrificateur, son rôle, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices. Et donc chacun de nous, nous sommes appelés à nous présenter devant Dieu pour offrir des sacrifices. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est notre rôle d'offrir à Dieu des sacrifices. Ok. Alors, on peut aller à la suivante. Nous sommes appelés donc à offrir des victimes spirituelles à Dieu, donc des sacrifices spirituels. Nous n'offrons plus des animaux, nous n'offrons plus des sacrifices concrets, mais nous offrons des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels à Dieu. Ok, on peut passer. Et nous avions rappelé que du coup, nous sommes appelés à offrir à Dieu nos vies tout entières, à offrir à Dieu notre sacrifice de louange, Hébreux 13:15, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est ce que nous venons de faire. Nous avons offert à Dieu notre sacrifice de louange, notre sacrifice d'action de grâce. On peut passer. Et aussi, nous avions terminé par dire que Dieu nous appelle aussi à offrir des dons matériels, de bienfaisance, des libéralités, ainsi qu'il est écrit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et nous avions rappelé que Dieu prend plaisir à nos sacrifices. Comme on l'a lu au début du culte, celui qui m'offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Et bien de la même façon, celui qui offre à Dieu des sacrifices concrets, des dons matériels, le glorifie. Nous glorifions Dieu aussi au travers de ce que nous lui donnons matériellement. On peut passer. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce que la Bible nous enseigne sur pourquoi nous devons donner. Donc, nous avons établi que bibliquement, nous devons donner. Ok. Maintenant, nous allons voir pour quelles raisons. Quelles sont les raisons bibliques qui font que nous devons offrir à Dieu? Pourquoi devons-nous donner à Dieu? Alors, premièrement, l'offrande à Dieu est un acte d'obéissance. Ben évidemment, avec tout ce qu'on vient de dire, ça semble évident. Ben nous offrons à Dieu parce que Dieu le demande, parce que Dieu nous y invite. Et donc, lorsque nous offrons à Dieu un sacrifice, lorsque nous donnons à Dieu de l'argent, quelque chose de matériel, lorsque nous offrons quelque chose à Dieu, eh bien, nous le faisons parce que nous voulons lui obéir. Dans Exode 25, l'expression est intéressante, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Donc, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Donc, Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils doivent apporter une offrande à Dieu. Et c'est intéressant, hein, l'expression « qu'ils m'apportent à moi ». Donc, l'offrande s'adresse à Dieu. Effectivement, physiquement, nous ne donnons pas l'offrande à Dieu. D'accord ? Donc là, ils allaient apporter l'offrande à Moïse. De la même façon, nous, chrétiens, nous n'apportons pas l'offrande à Dieu. Mais lorsque nous apportons notre offrande dans la maison de Dieu, c'est à Dieu que nous l'offrons. Qu'il m'apporte une offrande et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc vous voyez que là, l'initiative ne vient pas de Moïse. C'est Dieu lui-même qui dit à son peuple, je veux que mon peuple m'apporte une offrande. Et vous voyez que là, les offrandes consistaient en plein de choses. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil du chèvre, des poudres, voilà. Plein de choses qu'on pouvait apporter à Dieu. Ok, on peut aller à la suivante. Un autre verset qui nous montre aussi que c'est Dieu qui nous invite à lui offrir, Exode 22-29, « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Tu ne différeras point. » Ça, c'est intéressant. Différer, c'est quoi ? C'est remettre à plus tard. « Tu ne différeras point. » Tu ne feras pas traîner les prémices. Dès que tu auras tes premières récoltes, tu me les offriras. « Tu me donneras aussi le premier-né de tes fils. » Donc, nous offrons à Dieu parce qu'il nous y invite. Nous offrons à Dieu parce que c'est ce qu'il nous demande. Dieu nous demande de lui offrir des choses. Donc, premièrement, j'offre à Dieu parce que je veux lui obéir. C'est un geste d'obéissance à Dieu. On peut passer. Deuxièmement, l'offrande que nous faisons est un acte de reconnaissance que tout vient de Dieu ou que tout appartient à Dieu. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle, notamment, quand on mange, on remercie Dieu. Pourquoi ? Parce que tout sur terre appartient à Dieu. Et même cette nourriture que nous mangeons lui appartient. Alors, Agé 2,8 dit ceci, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Et alors, ce verset-là, souvent, quand on le dit dans l'Église, on dit toujours, « L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. » Donc, l'or et l'argent, ça signifie « Toute richesse sur terre appartient à Dieu. » Tout appartient à Dieu. On a du mal, hein, nous, avec ça, à s'imaginer, à se rendre compte de ça. C'est à lui que appartient tout ce qu'il y a sur terre. Et donc, lorsque nous offrons notre offrande, c'est un geste qui signifie également que nous reconnaissons que tout lui appartient, que tout est à lui, que tout lui appartient. Alors, regardez notamment 1 Chronique 29-14 et 1 Chronique 29-16. Donc, il y a le verset entre les deux qui n'est pas repris, mais voilà. Et ça, c'est des versets très éloquents pour expliquer justement cette réalité. Donc là, en fait, ce sont les offrandes, c'est David qui parle, et ce sont les offrandes qui sont faites par rapport à la construction du temple. Et il dit ceci, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ?» Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que nous t'offrons tout ça ? Qui sommes-nous pour t'offrir ça ? Réponse, « Tout vient de toi. » Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est beau, hein ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, premièrement, tout vient de Dieu. Quand je donne mon offrande, je reconnais que tout ce que j'ai vient de Dieu. L'argent que j'ai, les biens que j'ai, la nourriture que j'ai, tout vient de Dieu. Et le verset continue, « Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Donc, quand j'offre mon offrande, j'affirme que ce que j'ai, je le reçois de ta main. Donc, j'offre à Dieu ce que je reçois de sa main. Alors, Dieu est plein de grâce. Nous ne donnons pas tout ce que nous recevons. Nous donnons une part de ce que nous recevons. Mais donc, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, quelque part, je viens rendre à Dieu une part de ce qui lui appartient. Je reconnais qu'une part de mes biens, de ce que j'ai, appartient à Dieu et lui revient en propre. Alors le verset 16 du même chapitre dit « Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. C'est de ta main que viennent toutes ces choses et c'est pour toi que nous t'offrons, et c'est à toi que tout appartient. Donc nous reconnaissons, et c'est quelque chose de très important, que tout vient de Dieu, que tout appartient à Dieu, et que tout dans notre vie vient de lui. Chaque chose que je touche vient de Dieu. Certainement, ça vous est déjà arrivé d'avoir des gens autour de vous, dans votre maison par exemple, et que vous dites à un moment donné, ben voilà, on va rendre grâce pour manger, par exemple, j'invente. Ben, si vous avez un non-croyant à côté de vous, certainement qu'il vous a déjà dit, mais pourquoi tu dis merci ? C'est toi qui vas travailler tous les jours, hein, c'est pas Dieu, hein. Dieu ne met pas sa salopette le matin pour aller sur ton chantier. Dieu ne va pas dans ton usine à se casser le dos. Dieu ne fait pas tout ça. Pourquoi est-ce que tu remercies Dieu ? Eh bien, nous croyants, nous pensons que tout vient de Dieu et même notre travail. Chaque centime que nous avons, c'est Dieu qui ouvre la porte pour que nous l'ayons. Nous ne prenons pas ça comme un acquis, mais nous prenons ça comme des grâces qui viennent directement de Dieu. Et donc, tout ce que j'ai, je rends grâce et je reconnais que tout ce que j'ai, non seulement appartient à Dieu et que Dieu me prête, Dieu m'accorde la grâce de jouir d'une part des biens qui existent sur terre. Et donc, d'où la réalité, c'est une façon, l'offrande affirme que nous ne sommes que des gestionnaires, des intendants, des biens de Dieu. Je ne suis qu'un gestionnaire des choses que tu me donnes, Seigneur. Alors j'ai de la chance, j'ai plein de choses, j'ai plein de nourriture, j'ai une grande maison, j'ai une belle voiture, j'en ai plusieurs d'ailleurs, j'ai 3-4 garages, c'est compliqué hein, quand on a 4-5 voitures de les garer, enfin voilà. Eh bien tout ça, ça vient de toi. Et c'est ta main qui me les a accordées. Et c'est important hein, de voir que dans notre vie, parfois, on a du mal avec ça, parce que nous, on sait d'où vient le salaire. On sait bien que c'est nous qui allons travailler. Ou alors la pension, pour ceux qui sont pensionnés, ou le revenu complémentaire, pour ceux qui... Voilà. On sait d'où ça vient, mais on oublie parfois que ça vient de Dieu. Et parfois, on ne se rend pas compte. Et ça doit être une mentalité pour un enfant de Dieu de rendre grâce pour toute chose. Rendre grâce pour toute chose. Un jour, je disais à quelqu'un qui finissait son année scolaire ou qui finissait ses études, « Ah, mais c'est bien, t'as fini ton année scolaire, ben, faut rendre grâce à Dieu, faut glorifier Dieu, alors. » Ben, pourquoi ? C'est normal de finir son année scolaire. Ah ben non, il y en a plein qui ont commencé, qui sont tombés malades, qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Il y en a qui ont eu un drame familial, ils n'ont pas réussi à continuer jusqu'au bout. Il y a des gens qui n'avaient pas de Minerval pour payer. Il y a plein de choses qui auraient pu faire que tu n'arrives pas à la fin. Ah ben Dieu t'a fait grâce. Ce sont des grâces de Dieu. Je travaille, c'est une grâce de Dieu. J'ai un salaire, c'est une grâce de Dieu. J'ai un travail d'indépendant complémentaire, c'est une grâce de Dieu. J'ai pu avoir une voiture, c'est une grâce de Dieu. Et donc, quand j'offre mon offrande, je confesse à Dieu, « Écoute, Seigneur, c'est gentil de m'avoir donné tout ça, mais au fond, tout vient de toi. Et donc, je reçois de ta main ce que je t'offre. Ce que je viens de t'offrir là, en fait, c'est juste ce que tu me donnes toi-même. » On peut passer. Donc, l'offrande est aussi un geste de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Je reviens au verset du début. « Celui qui m'offre un sacrifice d'action de grâce me glorifie. » Donc, lorsque nous offrons à Dieu, c'est un geste de reconnaissance. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrifice une gerbe prémisse de votre moisson. Donc, l'offrande, c'est aussi un geste d'action de grâce par rapport aux bienfaits de Dieu. Et dans ce cadre-là, c'est les bienfaits de Dieu qui sont liés au fait que le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël. Donc, ils entrent dans leur héritage, dans ce que Dieu a prévu. Et donc, Dieu dit, ben voilà, vous allez m'offrir quelque chose en reconnaissance de mes bienfaits. Donc, je reconnais qu'il y a tout un ensemble de bienfaits de Dieu pour lesquels je ne peux que lui dire merci. À la nouvelle année, nous disons tous aux uns et aux autres, et surtout, une bonne santé. Ben, par exemple, la santé, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas de prise. Ce sont des grâces de Dieu. Alors oui, on peut faire attention à ce qu'on mange, comme Francis. Francis, jamais, jamais de sucre, jamais de gras, rien du tout. Il ne mange jamais rien d'excessif et en plus, il fait du sport. Alors, vous savez quel sport il fait, Francis ? J'ai déjà raconté, mais je le réexplique. Il fait l'escalier. Alors, l'escalier, c'est quoi ? C'est que chez lui, il a un escalier Alors il monte et il descend l'escalier pour se garder en bonne santé. Ah, vous ne faites pas l'escalier chez vous, hein, mais comme quoi ça nous apprend. Mais bon, ça veut dire qu'on peut faire des choses pour préserver notre santé. Mais malgré tout, ce sont des grâces qui viennent de Dieu. Et raison pour laquelle, lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes affectés dans notre santé, eh bien, nous allons à Dieu pour lui demander sa grâce, pour lui demander de nous aider, pour lui demander de nous soutenir, d'agir dans notre situation. Il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir par nous-mêmes. Il y a des choses qui viennent uniquement de Dieu, et l'offrande reconnaît aussi que tout vient de Dieu. Alors, je vais vous dire aussi, parce que, bon, ça vous échappe peut-être, que les grâces de Dieu sont variées. Par exemple, avoir un conjoint, c'est une grâce de Dieu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Il y a beaucoup de gens, quand on leur dit « Ah oui, ton mari, il est fantastique. Oh, mon mari, oh, ma femme. » Enfin, c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui pleurent pour ça. Avoir des enfants, c'est une grâce de Dieu. Donc ce sont toutes des choses pour lesquelles nous avons à rendre grâce à Dieu. Alors nous rendons grâce à Dieu par nos paroles, mais nous rendons grâce à Dieu aussi dans des gestes concrets qui lui disent merci. Alors on peut passer. Donc reconnaissance pour les bienfaits de Dieu. Ça c'est quand même un texte que je vais lire en entier. En fait, ça c'est le texte des prémices. Et en fait, c'est le texte qui raconte ce que l'Israélite va devoir dire lorsqu'il va apporter ses prémices. Donc, rappel, les prémices, c'est les premières choses que je récolte, les premières choses que j'ai de ma moisson, je les apporte à Dieu. Tout ce que j'ai en début, je l'apporte à Dieu. Et voici ce que les enfants d'Israël devaient dire à Dieu lorsqu'ils apportaient leurs prémices. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, je t'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu, puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Donc vous voyez ce que le texte dit ? Le texte dit « J'apporte mon offrande » en disant « Seigneur, on était en Égypte, on était opprimés, on souffrait, il n'y avait rien qui allait, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as fait entrer dans ce beau pays, tu nous as donné plein de biens. » Eh bien, maintenant, nous te rendons grâce au travers de ce que nous t'offrons, au travers de ce que nous te donnons. On peut aller à la suivante. Donc, nous avons plein de sujets de reconnaissance. La vie, respirer. Si vous y pensez, la respiration, ça ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui décide quand nous respirons et quand nous ne respirons pas. C'est Dieu, le souffle de vie, c'est dans la main de Dieu. Et d'ailleurs, on sait bien, c'est quelque chose qui nous choque toujours, c'est qu'il y a des gens parfois qui peuvent faire des arrêts cardiaques comme ça, instantanés, et puis voilà, la vie est partie. Dieu tient la vie entre ses mains, et il nous la donne. Les revenus que nous avons, le travail, la pension, c'est une grâce dans un pays où on a une pension. Il y a des pays où il n'y a pas, hein, où faut que tu travailles jusqu'à ton dernier jour. Les revenus complémentaires, c'est une grâce d'être dans un pays où le chômage existe. C'est une grâce. Vous perdez votre travail du jour au lendemain, vous faites quoi? C'est pas partout, hein. En Amérique, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est débrouille-toi. C'est une grâce d'être dans un pays où on a une sécurité sociale. Les choses essentielles de l'existence, le logement, la nourriture, les moyens d'énergie, on sait chauffer, on sait allumer les lumières, on sait même brancher des ordinateurs, on sait faire plein de choses. Mais aussi, le salut en Christ et les bénédictions spirituelles en Christ, c'est aussi des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour des grâces précises qu'il nous accorde. La protection, la guérison, la délivrance, le soutien. Je prie Dieu pour quelque chose, il m'accorde la guérison. Je prie Dieu de me faire grâce dans tel domaine, il m'accorde sa grâce. Eh bien, je lui dis merci. Rappelez-vous, la dernière fois, on parlait de l'expression qu'il y a dans la Bible, « bâtir un autel à l'Éternel ». Eh bien, dans la Bible, on voit que quand Dieu accorde des bénédictions particulières à son peuple, eh bien, le peuple de Dieu bâtit un autel à l'Éternel pour lui dire merci. Ce n'est pas dans notre mentalité, hein, ça. Nous, en général, « merci Seigneur parce que tu m'as sauvé ». J'étais très malade, tu m'as guéri, amen, alléluia, merci Seigneur. Et voilà, c'est... Eh bien, dans la mentalité biblique, quand Dieu nous fait certaines grâces, nous disons, Seigneur, tu m'as fait tellement, je te dis merci au travers d'un don. Et donc, sujet de reconnaissance également, ben, la vie, notre vie qui bénéficie en tout temps de la fidélité de Dieu et de la grâce de Dieu. On peut passer. Pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, toute notre vie est reconnaissance. Toute notre vie est reconnaissance. En Christ, notre vie tout entière est une vie de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que nous avons tout reçu en Christ. Tout. Il n'y a rien qui nous manque. Nous avons reçu la plénitude de la grâce de Dieu. Nous avons reçu le pardon, nous avons reçu le salut, nous avons reçu la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, la fidélité de Dieu dans nos vies, le fait d'être enfant de Dieu, l'héritage, l'espérance, la fidélité de Dieu dans nos circonstances particulières. On a tout reçu en Christ. Et parce qu'on a tout reçu, eh bien, le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, notre vie est devenue une vie de reconnaissance, une vie qui consiste à dire merci. À dire merci à Dieu. Nous avons une vie de reconnaissance, et donc lorsque j'obéis à la parole de Dieu, sur un autre sujet par exemple, je le fais par reconnaissance. Nous ne faisons pas les choses pour obtenir la grâce de Dieu, mais nous faisons les choses par reconnaissance. Lorsque je me sanctifie, je le fais par reconnaissance. Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu as envoyé Jésus pour me sauver, et bien maintenant, je veux vivre d'une façon qui t'honore et qui te glorifie. Et nos dons matériels également sont des actes de reconnaissance. Donc en fait, toute notre vie est une vie de reconnaissance, mais nos actes, nos dons matériels sont des actes particuliers au travers desquels ben, nous disons un merci spécial à Dieu, nous rendons grâce à Dieu au travers du don de nos biens. Romains 14, 8 dit « Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Donc nous vivons pour le Seigneur. Et donc, effectivement, là, un geste de reconnaissance, ce sont les offrandes. Alors, comme on l'a vu, il n'y a pas que ça. Je suis reconnaissant à Dieu, donc je lui offre mon sacrifice d'action de grâce, je chante sa gloire, je lui donne mon offrande, je me sanctifie, je le sers, je fais... Voilà, tout ça, ce sont des gestes de reconnaissance à Dieu pour ce que nous avons reçu. Alors, évidemment, ça suppose que nous soyons conscients que nous avons tout reçu. Si nous pensons que le salut en Christ, c'est juste un petit machin comme ça, ben nous allons souvent pas rendre grand-chose. Mais plus on se rend compte de l'étendue de la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, eh bien on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai tout reçu, j'ai envie de te rendre grâce au travers de ma vie. On peut passer. Donc nos vies tout entières sont des vies de reconnaissance. On l'a vu le verset la semaine passée, il y a quelques semaines. Nous sommes appelés à offrir nos vies tout entières à Dieu et nous offrons nos vies en tant que culte. Et du coup, bah, dans nos vies, il y a aussi nos biens matériels. On peut passer. Alors, une autre chose très importante que nous, enfants de Dieu, nous devons garder à l'esprit, c'est que l'offrande, c'est aussi un acte au travers duquel nous refusons que l'argent soit maître dans nos vies. Au travers de mon offrande, une fonction de l'offrande, c'est d'empêcher l'argent de capturer mon cœur, de prendre trop de place dans ma vie, et c'est de briser le lien naturel d'attachement que nous avons avec l'argent. Prenons l'exemple des prémices. Dieu vous dit, ou Dieu dit au peuple d'Israël, les premières choses que tu gagnes, c'est pour moi. Eh bien, vous voyez que quand Dieu nous donne un ordre tel que celui-là, ça a pour effet que le lien qu'on aurait naturellement de dire tout l'argent que j'ai, c'est pour moi personnellement, c'est pour mon propre plaisir, quand déjà Dieu nous dit « Oh, oh, une part de tes biens, c'est pour moi. eh bien, ça brise le lien d'attachement que nous pouvons avoir avec l'argent, le lien de cupidité, le lien d'idolâtrie de l'argent qu'il peut y avoir. Dieu nous demande une part de nos biens également pour que l'argent ne domine pas dans nos vies et que l'argent, que nous puissions le mettre à sa juste place. Que l'argent ne prenne jamais la place de Dieu, mais que ça soit quelque chose qui est au service de Dieu. Mon argent, comme le reste de ma vie, est au service de Dieu et je l'utilise pour la gloire de Dieu. Donc c'est aussi quelque chose d'important. C'est vraiment une pédagogie de Dieu pour nous. C'est de nous apprendre à mettre l'argent à la bonne place dans nos vies. Hein? Et parfois, justement, quand les chrétiens ont du mal avec les offrandes, avec le sujet des offrandes, en général, c'est que quelque part, le lien qu'on a avec l'argent est problématique. Le lien, le rapport qu'on a avec l'argent est problématique. On est tellement pris dans cet amour de l'argent que dès qu'on nous dit « Ah, tu dois donner à Dieu, ah oh oui, mais attends, qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je n'ai pas envie. Enfin, » Alors que quand on a une relation saine avec l'argent, ben, ça veut dire aussi qu'on a une saine relation avec Dieu. En d'autres termes, si l'argent est à sa bonne place, eh bien, je sais qu'il n'est pas à la place de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est une vraie pédagogie de Dieu pour nous. On peut passer à la suivante. L'argent, le don d'argent, l'offrande aussi, manifeste une volonté d'honorer Dieu avec nos biens. Proverbe 3, 9 à 10 dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Honore l'Éternel avec tes biens. Donc quand je donne mon offrande, j'honore Dieu avec mes biens. Donc je dois honorer Dieu jusque dans les petites pièces de mon porte-monnaie. J'honore Dieu avec mes biens, avec une part de mes biens, honore l'Éternel. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Quelque part, c'est un geste comme un autre au travers duquel on veut rendre à Dieu toute la gloire, tout l'honneur. Et comme on l'a chanté tout au début du culte, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai en l'honneur de son nom. Donc quand je chante, c'est en l'honneur de Dieu, mais quand je donne aussi, c'est en l'honneur de Dieu. Donc ça, c'est un beau verset. Est-ce que j'honore l'Éternel avec mes biens? Ou pas? Est-ce que j'honore Dieu avec ma bouche, avec ma vie, avec... Mais est-ce que j'honore l'Éternel avec mes biens aussi? Et vous savez, c'est pour tous les âges, hein, c'est pour toutes les réalités. Moi, je connais plein de jeunes, parfois même, avec leur job étudiant, qui donnent déjà une dîme de leur job étudiant pour honorer Dieu avec leurs biens. Il ne faut pas attendre d'être millionnaire, sinon on ne le fera jamais. Enfin, je ne sais pas s'il y a des millionnaires ici, mais il n'y a personne qui a la tête de millionnaire. Mais enfin bon, ça, ils se cachent bien. Hein, parce qu'en général, quand les gens gagnent au loto, ils s'habillent encore plus... plus gnangnan, comme ça on ne se rend pas compte qu'ils sont riches. Donc peut-être qu'il y en a qui se cachent ici, mais... Et donc, nous honorons Dieu aussi avec nos biens. On peut aller à la suivante. Chose importante aussi, l'offrande est donnée avec un but, une intention de bâtir le royaume de Dieu. On a un texte dans Exode 35 qui nous parle de ça. Où il est dit, tous ceux qui furent... Donc en fait, c'est la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande et prenez pour moi. Et bien ça, c'est la suite. Et donc la réponse du peuple, c'est, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Donc les gens sont venus apporter à Dieu leur offrande. Pourquoi ? Pour bâtir la tente d'assignation, pour bâtir la tente de la rencontre qui permettait au peuple de Dieu d'avoir une relation avec Dieu. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ce verset ? On apprend que l'offrande s'apporte aussi dans une volonté, dans une intention de bâtir le royaume de Dieu. On offre notre offrande pourquoi ? Parce qu'on a à cœur que le royaume de Dieu se construise. Tout comme là, c'était la tente d'assignation, nous avons à cœur que le royaume de Dieu sur terre aille de l'avant. Et nous sommes conscients que ce royaume ne va pas se fonctionner avec des feuilles de papier qui tombent des arbres, mais il faut de l'argent. Et donc, comme on a à cœur le royaume de Dieu, on va donner une part de nos biens pour bâtir le royaume de Dieu. On peut aller à la suivante. Donc, un chrétien, doit avoir à cœur que le royaume de Dieu avance. Pour ceux qui sont membres de l'Assemblée, rappelez-vous qu'on a édité une vision pour l'Église. Et dans le premier cadran de l'Église, il y a chaque chrétien enraciné en Christ, chaque chrétien avec une relation. Et puis le dernier point, c'est chaque chrétien engagé pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes appelés chacun à être engagé, préoccupé par l'avancement du royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment un élément qui distingue la maturité spirituelle des chrétiens. Vous savez bien que les bébés, ils le font pas exprès, mais les enfants, souvent, ne voient que leurs intérêts. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont quelque chose de très égocentré. Il faut du temps, il faut l'éducation pour qu'ils apprennent. Non, tu en donnes aussi aux autres. Non, pas maintenant. Non, voilà. Donc, ils ont quelque chose. Eh bien, plus on grandit spirituellement, plus on sort de moi, et on commence à s'intéresser au royaume de Dieu. Un chrétien mature, il se préoccupe du royaume de Dieu. Le chrétien mature, il se préoccupe de savoir que le missionnaire qui est là-bas en Zambie, il a besoin de manger pour pouvoir annoncer l'évangile. Ça le préoccupe. Le chrétien mature, il s'intéresse au fait qu'il y a des chrétiens persécutés dans le monde, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'argent aussi pour qu'on puisse les aider. Donc, le chrétien mature, il n'est pas concentré juste sur lui, sa vie, ses bénédictions ou quoi, mais il est intéressé par le royaume de Dieu. Et donc, comme nous avons à cœur l'avancement du royaume de Dieu, nous allons mettre aussi en œuvre nos moyens matériels et financiers. Par exemple, le chrétien mature va avoir à cœur que l'Église avance. Pour qui ? Pour Dieu. C'est pas de prendre l'Église comme l'œuvre d'un humain ou pour faire plaisir à un tel ou un tel. C'est parce que je prends l'Église comme la maison de Dieu, pour Dieu. Et donc, j'ai à cœur que l'Église avance. Alors, dans nos pays, les églises ont des bâtiments, donc j'ai à cœur que le bâtiment de l'Église se perfectionne. J'ai à cœur que l'Église fonctionne. J'ai à cœur que, quand l'Église évangélise, elle ait de quoi évangéliser. Si on dit aux gens, oui, Dieu vous aime, Dieu m'aime, oui. Et la Bible dit, d'accord, vous auriez une Bible à me donner ? Ah non, désolé, on n'a pas suffisamment d'argent pour vous offrir une Bible. Ça ne marche pas. Nous avons besoin de choses concrètes qui permettent au royaume de Dieu d'avancer. Si on veut inviter les gens à une fête et qu'on leur donne des flyers, ces flyers-là, il faut les payer. Si on veut inviter un prédicateur, il faut lui rendre un défraiement. Si on veut acheter des nouveaux instruments de musique, encore qu'ici, les instruments, c'est vous qui les achetez. Normalement, on devrait vous les payer. S'ils sont consacrés, oui, tu me refaire la facture, oui. S'ils sont consacrés pour l'Église, l'Église paye les instruments. En fait, je sais que ça semble, mais ce qui est pour le royaume de Dieu doit être financé pour le royaume de Dieu. Voilà, on va le prendre comme ça. Donc elle dit que c'est un don que eux font pour l'Église. Donc effectivement, là, ça marche. Mais donc, vous voyez qu'il y a plein de choses pour lesquelles le royaume de Dieu a besoin. Et encore, je ne vais pas vous citer tout le reste, concrètement, dans nos églises, nous faisons tout avec des clopinettes. Donc, nous débrouillons toujours. Parce que nous avons cette mentalité de simplicité, tout ce qu'on veut. Mais en réalité, nous pouvons considérer que le royaume de Dieu mérite certaines choses. Si nous voulons que le royaume de Dieu avance, il y a des choses aussi que nous devons mettre en place. Il y a des églises, par exemple, ils offrent par exemple, quand les gens sont en préparation au baptême, ils offrent des, des syllabus, des syllabies précis, des syllabus de préparation au baptême, tout relié, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on veut que les gens qui se préparent au baptême aient du matériel. On veut que les diacres aient un bon logiciel pour, etc. Donc on investit pour que le royaume de Dieu avance. Il ne s'agit pas d'investir de l'argent pour rien, évidemment. Mais il s'agit d'avoir une vision d'excellence pour ce qui se fait pour la gloire de Dieu. Alors, il y a l'Église, mais il n'y a pas que l'Église. Donc, dans l'Église, il y a l'Église actuelle, mais il y a aussi l'expansion de l'Église. Le chrétien mature, il a aussi à cœur que son Église grandisse, hein, que son Église aille semer, par exemple. Hein, donc voilà, nous, on est ici à Jumet, mais on se dit à un moment donné, oh là là, il faut quand même qu'on évangélise plus, on va ouvrir une Église à Roux. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui allez aller à Roux, on va se diviser. Et puis il y a une partie qui va aller à Ransard, et puis il y a une autre partie qui va à Ransard. Aurélien, toi, tu iras à Ransard, Gino ira à Roux, Benoît ira à Lode-Linsard, et voilà. Donc c'est ça aussi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste notre Église, c'est aussi que l'Évangile avance, grandisse, et que de nouvelles personnes entendent parler de Christ. Alors ça, c'est pour l'Église, mais il y a aussi l'œuvre missionnaire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que l'Église. L'œuvre missionnaire, c'est aussi les missions, les missionnaires qui partent, les œuvres d'évangélisation, etc., etc. Mais aussi, à côté de ça, il y a, dans le royaume de Dieu, il y a aussi les écoles bibliques qui, en général, ne sont pas subventionnées, les groupes de louanges qui font des concerts et tout ça, les actions de bienfaisance, on a eu le sel qui est venu il n'y a pas longtemps, les événements d'unité. Quand on faisait le Festival de l'Espoir, il faut payer ce Festival de l'Espoir, ça ne tombe pas du ciel. La librairie chrétienne, les œuvres de soutien à certains publics, tout ça nécessite des moyens. On peut aller à la suivante. On peut passer. Ça passe plus ? Ah, voilà. Donc, je vais finir par ici en disant que du coup, nous devons avoir à cœur les intérêts du royaume de Dieu. C'est aussi une raison qui fait qu'on offre, on donne notre offrande, c'est que nous avons à cœur les intérêts du royaume de Dieu. Et ce verset-là, je sais bien qu'on en a déjà parlé des milliards de fois, mais c'est quand même un bon verset, parce qu'il faut quand même que ça rentre dans notre cœur, dans notre tête. Agée 2, 1, 2 à 4, « Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? » Le chrétien doit avoir autant, si pas plus à cœur, le royaume de Dieu que ses intérêts personnels. Et le chrétien devrait être, parfois, il devrait être en colère. Vous êtes rarement en colère ici. Vous êtes tout va bien, tout se passe bien. Mais parfois, le chrétien devrait être en colère. De dire, mais comment c'est possible que moi, dans ma maison, j'ai un truc qui est beau comme ça, j'ai une maison magnifique, et que l'église ne ressemble à rien ? Comment c'est possible que dans ma maison, que moi, j'ai des moyens pour faire telle ou telle chose au niveau informatique, et que dans l'église, on fait tout avec rien ? On devrait être en colère. Pour le faste, pas pour que les gens disent « Ah, c'est beau », mais parce que c'est les intérêts de Dieu. On devrait avoir à cœur les intérêts du royaume de Dieu, et ça, c'est un objectif essentiel. On prie en 2024 une église où tout le monde est intéressé par les intérêts du royaume de Dieu. Comme disait la parole, « Le zèle de ta maison me dévore ». Est-ce qu'on peut dire ça, nous ? Le zèle de ta maison me dévore. Déjà, parfois, on n'est même pas au courant que Dieu a une maison. Donc ça, déjà parfois, on ne sait même plus. Ah oui, c'est vrai, il y a une église. Ah bon, et on se rassemble quand ? Le dimanche. Ah, c'est le dimanche, hein, j'étais pas au courant. Donc déjà, il faut être au courant que Dieu a une maison. Bon, ça, c'est une première chose. Mais ensuite, il faut avoir un cœur qui est dévoré par les intérêts de Dieu. J'insiste, les intérêts de Dieu. On ne travaille pas pour les intérêts de quelqu'un, d'une personne particulière, d'une association, mais les intérêts de Dieu. Alors que Dieu nous aide justement à grandir là-dedans pour aussi pouvoir lui offrir les sacrifices d'action de grâce dont il est digne. Amen.